Vous savez, chers amis, que l'Ancien Testament a pour nous de grands avantages et qu'il est pour nous, il est très précieux, tout aussi précieux que le Nouveau Testament. L'ensemble constitue la parole inspirée de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël l'a été pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et dans l'Ancien Testament, on découvre aussi tout le cheminement de la mise en place du plan de Dieu. Et c'est très, très édifiant, très intéressant. Donc, sachons que l'Ancien Testament, où nous ne pouvons pas faire application de tout ce qui y est enseigné de façon littérale, bien sûr, il faut tout voir dans l'optique du Nouveau Testament, mais cependant, il est une source pour nous inépuisable de précieuses leçons. Nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 6, livre de Josué, chapitre 6, et au verset 26 et 27. « Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Amen. La conquête de Jéricho venait donc d'être réalisée. Vous savez ce qu'elle a été, cette conquête. Véritablement une action entièrement conduite par Dieu et le déploiement merveilleux de la puissance divine. Et Josué avait brûlé la ville, voyez au verset 24, au-dessus de notre lecture, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Mais tous les autres êtres vivants avaient été dévoués par interdit, c'est-à-dire passés au fil de l'épée. Cette ville de Jéricho était située à 8 kilomètres environ du Jourdain et à 28 kilomètres de Jérusalem. Elle était séparée de la capitale, Jérusalem, par une contrée rocheuse et déserte, ce que met fort bien en évidence la parabole du Seigneur Jésus du bon Samaritain. Les environs de Jéricho étaient fertiles, le livre du Deutéronome, en son chapitre 34 notamment, nous la montre comme la ville des palmiers. Il y avait beaucoup de palmiers. Quant à Joseph, l'historien, il nous dit que la ville était au milieu d'un paysage magnifique, un paysage verdoyant, qu'il y avait des productions très riches, notamment une production de miel. On y jouissait d'un climat délicieux, comparable à celui d'Élim, dont nous parle le chapitre 15 de l'Exode. Il y avait des parterres fleuris. Enfin, c'était, selon cet historien, un véritable paradis terrestre. Dieu avait livré Jéricho à Josué, et maintenant la ville était brûlée. Tous les habitants, tous les êtres vivants qu'elle contenait avaient été mis à mort. Et Josué alors prononce la malédiction que nous avons lue. cette malédiction, il lui est possible de la proférer en qualité de prophète, bien sûr. Voilà, ce n'est pas quelque chose que Josué n'a pas pris sur lui. C'est en qualité de prophète. Il jure même, ce qui est excessivement grave, Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Il jure par inspiration, et c'était donc bien là, une parole de Dieu. Dieu voulait que la ville de Jéricho ne soit jamais reconstruite, jamais. Il l'avait livrée, il avait ses raisons, au sein de cette ville sévissait une corruption épouvantable, un comble avait été atteint. Dieu voulait donc que cette ville soit comme séparée définitivement de toute existence, de toute vie. Elle était condamnée à une ruine irrévocable. Et c'était là une volonté de Dieu. Certes, dans les actions de Dieu, il y a des décisions comme celle-là qui sont terribles, rudes. Mais il faut que nous acceptions tout. Dans la parole de Dieu, il y a des angles vifs. La parole de Dieu est elle-même une épée à double tranchant, ne l'oublions jamais, qui sépare moelle et jointure, âme et esprit. Il est impossible qu'il en soit autrement. Nous avons évidemment, nous aimons, disons, recueillir tout ce qui nous parle de l'amour du Seigneur, de sa clémence, de sa bonté. Nous aimons beaucoup les faits où nous voyons en effet même la douceur de Dieu s'exercer. Oui, mais sans qu'aucune atteinte ne soit portée à sa sainteté. Et la sainteté elle-même a place dans les actions de Dieu. Celui qui éventuellement, tout homme qui éventuellement reconstruirait la ville de Jéricho, devrait donc, selon cette malédiction, perdre deux de ses fils, l'aîné et le cadet. Deux de ses fils. Il perdrait l'aîné en commençant aux fondations de la ville, et il perdrait le cadet en posant les portes, c'est-à-dire en terminant la reconstruction de la ville. C'était une parole donc immuable avec menace de châtiment, mais menace de châtiment et avertissement. Dieu avertit. Il avertit. Et vous allez voir, enfin, je pense que nous ne verrons pas les derniers grands avertissements de Dieu, mais il y a dans l'Apocalypse des avertissements de Dieu avant les fléaux qui sont les jugements proprement dits du chapitre 16 de l'Apocalypse. Il y a l'avertissement par les deux témoins, par les trois anges qui parcourent toute la terre, un évangile éternel à la main, donc des avertissements solennels avant que ne viennent les jugements. Mais une question se pose, et nous ne pouvons pas éluder, bien sûr, des questions, elles se posent à notre cœur, il faut y chercher réponse, bien entendu. Et cette question qui se pose ici est la suivante. Pourquoi Dieu frappe-t-il les fils du coupable éventuel, de l'homme qui éventuellement reconstruira la ville? Pourquoi va-t-il frapper ses fils et ne va-t-il pas frapper celui-là même qui reconstruira? Pourquoi non pas l'auteur lui-même, mais ses fils? Alors, il est bon de répondre à cette question, elle est légitime, la réponse ne peut que nous éclairer. Dans les familles juives, il faut savoir que les enfants étaient les colonnes de la maison, c'est-à-dire de la famille. L'aîné était l'héritier et le cadet était l'enfant de la dernière tendresse du père. Nous pensons à Jacob notamment et à ses fils Joseph et Benjamin. Vous savez quelle est la douleur de Jacob lorsqu'on lui apporte la tunique de Joseph maculée de sang. Quelle douleur perdre ce n'était pas lui le tout dernier, mais perdre quand même, là, le onzième, le fils, en somme, qui allait clôturer la famille, la descendance, sa descendance propre. Tous les hommes, bien sûr, sont coupables devant Dieu quand ils veulent faire leur propre volonté et qu'ils désobéissent. Et bien sûr, nous pouvons déjà dire ceci, c'est qu'en désobéissant à l'Éternel, ils compromettent leurs enfants. Attention, chers amis, j'ai fait moi aussi des études sur la famille chrétienne, et j'ai montré cela. Ils compromettent leurs enfants. Ils entraînent leurs enfants dans la même direction qu'eux-mêmes. Et s'ils vont vers la mort, s'ils marchent selon la chair, et vous savez que vivre ou marcher selon la chair, c'est la mort, dit l'apôtre Paul dans les Romains 8. Alors, s'ils vivent ainsi, eh bien, ils entraînent leurs enfants vers la mort, au lieu de les entraîner vers la vie. Et cela est d'une grande importance. Il faudrait que les parents chrétiens réfléchissent profondément à ces choses. On ne laisse pas le temps venir et on doit placer dans les heures ou dans les journées que le Seigneur nous donne des choses précieuses. Pour cela, il faut méditer, réfléchir, quelle va être notre conduite. On ne se laisse pas entraîner au fil des heures, mais on meuble le temps que Dieu nous donne de bonnes choses et notamment d'obéissance. Voilà déjà un premier élément de réponse à la question que nous avons posée et qui est pourquoi frapper les fils et non pas le coupable. Mais nous pouvons dire encore ceci. Un enfant qui meurt n'est pas nécessairement perdu. Ah, il ne faut pas que nous, lorsque l'Éternel fait mourir quelqu'un, qu'il le fait mourir nécessairement pour le jeter en enfer. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Dieu peut faire mourir quelqu'un, n'est-il pas celui qui fait vivre et qui fait mourir? N'est-ce pas lui qui fixe le terme de la durée de notre vie sur la terre? Pour Dieu, vous savez, la terre est un champ d'expérience. Mais ce n'est pas là que le grand bonheur se trouve. Il se prépare là, il se prépare sur la terre. C'est là que nous le préparons, mais le vrai bonheur est évidemment dans le royaume de Dieu. Alors, il ne faut pas penser que lorsque Dieu reprend quelqu'un, un enfant ou quelqu'un, s'il décide lui-même de le reprendre, c'est nécessairement pour le jeter en enfer. Vous savez, il y aurait là un tas de choses à examiner dans l'Écriture. S'agissant par exemple de personnes d'un certain âge déjà, ou même de personnes simplement adultes, eh bien, il arrive que Dieu les reprenne subitement comme cela, mais Dieu a agi, Dieu est juste, Dieu est juste, et il a donné à chacun sa possibilité, la possibilité de découvrir la voie du salut. Et puis alors, il y a cette fameuse parabole des ouvriers de la dernière heure, de la onzième heure. les ouvriers de la 11e heure. Je ne sais pas si vous avez quelquefois entendu un évangéliste évangéliser là-dessus. Moi, je ne m'y suis jamais avisé. À évangéliser sur les ouvriers de la 11e heure, parce qu'il faudrait arriver à conclure de la manière suivante, écoutez, si vous n'êtes pas sauvés à la première, à la deuxième, à la troisième heure, attendez toujours et vous serez peut-être sauvés à la 11e heure, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on ne peut pas évangéliser là-dessus. Par conséquent, si je dis cela, c'est pour montrer que cette parabole a une autre destination. Elle a effectivement une autre destination. Elle n'est pas un élément qu'on puisse employer pour l'évangélisation, mais elle signifie ceci, c'est que Dieu, lui, se réserve de donner à l'ouvrier de la 11e heure le même salaire qu'à celui qui est venu tout au commencement et qui a subi toute la chaleur du jour, qui a effectué tout le travail, a supporté tout le travail, et lui donne le même salaire. As-tu quelque chose à dire, ou avez-vous quelque chose à dire, vous qui protestez, vous ouvriers de la première heure, que je sois bon? Vous avez quelque chose à redire à cela, que je sois bon, dira le Seigneur, n'est-ce pas? Lui donne le même salaire. Et, chers amis, pour ma part, j'ai été envoyé par Dieu, dans certaines circonstances, vers des gens qui ont trouvé le salut à l'ultime moment. Bien entendu, attention, ce n'est pas une voie ouverte, ce n'est pas un système. Hein? Aïe, aïe, aïe. Que personne ne dise, j'ai le temps, surtout chez les jeunes, n'est-ce pas? J'ai le temps, je vais vivre un peu, et puis un peu plus tard, je pourrai me convertir, quand j'aurai bien joui de la vie à la manière dont on le fait sur la terre. Non, pas ça, bien sûr, ça, Dieu sanctionnerait immédiatement une telle position. Mais, ouvrier de la 11e heure, c'est vrai, un jour, le Seigneur m'oblige, mais ça a été extraordinaire. J'étais à Alger, j'avais beaucoup de choses à faire, j'étais très pris à ce moment-là, et une circonstance intervient à 450 kilomètres de là, c'est-à-dire à Oran, et il fallait que quelqu'un du service central, et j'étais le chef du service à ce moment-là, quelqu'un se déplace pour aller régler cette affaire, l'affaire qui s'était présentée à 450 kilomètres, je vous dis, à Oran. Il fallait vite prendre le train et aller là-bas. Et moi, je dis non et je désigne quelqu'un pour y aller à ma place. Mais je ne sais plus comment ça s'est passé. Impossible, il a fallu que ce soit moi. Ah, alors j'étais mécontent d'abandonner mon travail, les choses que j'avais en cours pour aller régler cette affaire-là, prendre le train comme ça. Mais j'ai pris le train, et je suis parti. J'ai été obligé, je vous dis, et je l'ai fait en marmonnant. Et quand je suis arrivé à Oran, il y avait... ma belle-sœur qui m'attendait à la gare, chose absolument inhabituelle. Hein? D'ailleurs, elle était catholique, elle l'est toujours, et elle m'attendait à la gare. Bon. Et le représentant de mon service, lui, n'y était pas. Alors, je lui dis, tiens, comment ça se fait que tu es là? C'est toi qui viens me chercher? Oui, je viens te chercher en voiture, vous voyez. Bon, parce que je vais te mener chez un oncle qui est à l'article de la mort. Il faut que tu viennes le voir tout de suite. Bon, alors j'y vais. Et j'arrive chez cet oncle qui était couché, c'est un homme âgé, mais il était très lucide. Et alors là, bien sûr, moi... je me suis dit, tiens, je vais lui parler de l'Évangile, il faut vite faire, en termes excessivement simples, vous savez, ouh là là, c'est pas de la théologie qu'il faut faire à ce moment-là, c'est vraiment énoncer la vérité de façon aussi simple qu'on le peut, avec son cœur. Et alors, il me répond en me disant, « Oh oui, Jésus, il était grand, ils l'ont battu, et il paraissait travaillé par toute la passion, en somme, il avait eu comme une vision de la passion. » Moi, à un moment, je me suis dit, tiens, oh là 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 là, ça ne va plus très bien, et il entre un petit peu dans le délire, n'est-ce pas, j'arrive peut-être un peu tard, mais en l'écoutant, je lui dis, mais après tout, c'est sensé ce qu'il dit. Alors je lui dis, voyez donc, ils l'ont battu, ils l'ont frappé, ils l'ont fait mourir. Oui, il me dit, oui. Et alors on sentait qu'il était vraiment travaillé intérieurement pour cela. Alors, je lui dis, mais savez-vous que c'est pour vous, pour moi, pour vous, qu'il est mort? Et c'est pour moi. Alors là, n'est-ce pas, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est pour vous, c'est pour que vos péchés vous soient pardonnés, etc. Voilà cet homme qui est mort dans la foi, un ouvrier de la 11e heure. Et le Seigneur Jésus, donc, m'avait envoyé juste là, à l'ultime moment, et j'ai eu encore d'autres occasions du même ordre, voyez. Les ouvriers de la 11e heure. Donc attention, nous, souvent nous sommes imprudents dans notre langage, nous disons telle personne, oui, elle est sauvée, elle est partie parce qu'elle était dans les rangs de l'Église. Et puis après, n'est-ce pas, telle autre personne, nous dirons, oh, ça, cette personne-là, alors là, n'est-ce pas, ou alors nous poserons la question, croyez-vous que cette personne n'est pas sauvée, n'est-ce pas, ou bien alors nous présenterons une catégorie de gens, mais alors ces gens là, les gens de cette... ils ne sont pas sauvés, ils vont en enfer, etc. Ne jugeons pas cela, cela ne nous appartient pas. Après la mort, rien ne nous appartient, chers amis, nous n'avons pas à en décider nous-mêmes. Mais il faut dire que Dieu est libre, lui, d'utiliser, comme il l'entend, la rédemption qui est en Jésus-Christ. N'est-ce pas à lui? N'est-ce pas à lui cette rédemption? Cela lui appartient. Alors, un enfant qui meurt n'est pas nécessairement perdu. La perte d'un enfant, d'autre part, punit un père gravement, bien plus que sa propre mort. Et c'est là peut-être même qu'on peut dire, l'enfant que Dieu va reprendre, ce n'est pas pour le jeter en enfer. Dieu a des possibilités, ce n'est pas à nous. Nous avons un message qui est d'annoncer le salut par la foi en Jésus-Christ, et c'est tout. Nous n'avons pas d'autre chose à faire. Mais Dieu, lui, est en possession de la rédemption et peut l'utiliser librement selon sa justice et sa sagesse. Nous rappelons David. David aurait préféré mourir à la place de son fils. Cet enfant qui était né de Bathsheba, le premier enfant, Bathsheba, la femme d'Uri, et qui mourut. David jeûna et pria pour l'enfant couché par terre pendant 7 jours. Et après, la parole de Nathan, eh bien alors, David, quand l'enfant fut mort, il se leva, il s'habilla, il reprit ses habitudes, mais il avait beaucoup souffert du décès de cet enfant. Alors, la reconstruction de Jéricho. Cette reconstruction, quelqu'un va oser. Quelqu'un va oser. Va oser affronter la malédiction de Dieu. Et ce quelqu'un, nous le trouvons mentionné dans le premier livre des Rois, au chapitre 16 et au verset 34. Chapitre 16 et verset 34 du premier livre des Rois. De son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Yel de Bethel, et cela était du temps d'Akab, vous voyez, en remontant quelques versets, au verset 29, nous voyons que nous étions là dans le règne d'Akab, fils d'Omri, qui régnait sur Israël, c'est-à-dire sur les 10 tribus, et qui régna 22 ans à Samarie. C'était, il avait pour femme la fameuse Jézabel. Et en lisant ces quelques versets, nous voyons que ce roi avait fait pire que tous ceux qui l'avaient précédé. Il avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il alla même servir les Baals et se prosterner devant lui, élevant un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il avait bâti à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Voilà ce roi, voilà ce règne de 22 ans, et pendant cette période d'apostasie abominable, eh bien, un homme riche, considéré, qui a l'oreille du roi, Yel de Bethel, va oser reconstruire Jéricho. Et ce nom est pourtant magnifique, extraordinaire, puisque Yel signifie en hébreu la vie de Dieu. La vie de Dieu. Porter un tel nom. Nous voudrions bien le porter, ce nom-là, n'est-ce pas? Mais nous portons le beau nom de chrétien. Attention, nous, de ne pas nous égarer et de faire ce que Dieu a décidé qu'on ne ferait plus jamais. Alors, sous cet homme, 537 ans, environ après la malédiction. En effet, la prise de Jéricho par Josué remonte à 1406 avant notre ère, et le règne d'Akab, lui, se situe de 874 à 553, et alors il y a eu donc une distance de temps de 532 à 553 ans par rapport à la malédiction de Josué. Et comme cette reconstruction arrive vers la fin du règne d'Akab, on peut dire qu'il y avait environ 537 ans que la malédiction avait été prononcée par Josué. Alors, voici que donc Yael obtient le consentement du roi Akab pour reconstruire Jéricho, les moyens aussi certainement, le commencement de cette reconstruction semble aller très bien, mais c'est pourtant là le commencement d'une grave désobéissance, et le commencement du mal est toujours quand la parole de Dieu perd sa force en nous. La parole de Dieu n'avait plus force, elle n'avait plus autorité. On la connaissait, on la lisait. Elle n'avait plus aucune force, aucune autorité. Chers amis, c'est un danger, cela. Dans l'Église, aujourd'hui, que la parole de Dieu n'ait plus sa force, en toute partie, chers amis, en toute partie. Ou bien, alors, comme le disent aujourd'hui des modernistes, ou bien alors, la parole de Dieu est dans la Bible, mais la Bible n'est pas toute la parole de Dieu et nous ne partageons pas ça, nous sommes des fondamentalistes. Et nous disons que toute la Bible est la parole de Dieu et nous croyons à l'inspiration verbale, c'est-à-dire au mot près. Verbal du latin verbum, au mot près. Alors, attention que la parole ne perde pas, ou certaines parties de la parole ne perdent pas autorité en nous. Et cela se présente déjà maintenant, chers amis. Si je le dis, si je l'affirme, c'est parce que je le vois. Je le vois. Certaines parties de la parole, nous disons toujours que la Bible est entièrement la parole de Dieu et que cette parole est inspirée. Mais attention, il y a certaines parties, même du Nouveau Testament, qui perdent autorité. Et on passe dessus. On n'obéit pas. Il y a des choses qu'on laisse de côté et auxquelles des prescriptions, des enseignements auxquels on refuse d'obéir parce que la parole, je dis, a perdu sa force dans nos cœurs. c'est très grave. Vous savez, la désobéissance est quelque chose qui est amené par la tentation. La foi, alors, n'agit pas pour retenir l'homme. Alors l'homme est amorcé par une tentation, l'homme se donne de bonnes raisons. On peut dire, oh, telle chose, ça c'est secondaire. Ne soyons pas excessifs. J'ai entendu tout ça. Dieu est amour, vous savez, Dieu est amour. Oh oui, Dieu est amour. Comme on déforme l'amour de Dieu. J'ai entendu le doyen de Dex, Pierre Courtial, qui est un homme dont la foi est très ferme et qui dit et écrit d'excellentes choses. Pierre Courtial, le directeur des études, doyen de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Et je me rappelle, dans une conférence, il disait ceci: « Je n'ose plus employer le mot « amour ». Je n'ose plus. Tellement on fait dire à ce mot ce qu'il ne devrait jamais dire. On fait entrer dans la conception de l'amour des choses qui n'y ont pas place. Alors, c'est à peine si on ose employer ce mot. Et c'est vrai, malheureusement. C'est vrai. Et souvent, au nom de l'amour de Dieu, l'on accepte des compromis, des choses qui sont complaisantes, des attitudes complaisantes, mais qui entrent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu ne vieillit jamais. Elle est éternelle, elle ne vieillit jamais. 537 ans après la malédiction de Josué, cette parole avait la même force qu'au commencement, qu'au moment où elle sortait de la bouche de Josué. Mais Iel, lui, ne s'intéresse pas à cette parole. Cette parole, il la connaît, mais il ne s'y arrête pas. Elle n'a plus de force pour lui. Et il pose les fondations. Il pose les fondations. Alors, qu'arrive-t-il? Évidemment, beaucoup d'ouvriers sont là sur le chantier, au travail. On a creusé, on met des pierres dans les fossés. Et puis, alors, tout à coup, on voit un coureur. C'était ainsi que les nouvelles étaient portées à ce moment-là. Un coureur arrive. Alors, quelqu'un du chantier dit, tiens, un coureur, il y a une nouvelle. Alors, on s'arrête, on s'attend, le coureur arrive, et que va-t-il dire? Quel est son message? Il va apprendre à Iel que son fils aîné vient de mourir. Tu sais, ton fils vient de mourir. Ah! Alors, que va faire ce père? Va-t-il s'arrêter? Va-t-il comprendre? Non! Non, il va pleurer, il va être désolé, il y aura un deuil, mais on va continuer de construire. Il n'écoute pas l'avertissement. Son cœur n'est plus capable de foi sur la parole de Dieu. Il ne croit pas que cette mort soit un avertissement. Mon cher Samy, maintenant, quelquefois dans la vie de l'Église, il y a des avertissements qui interviennent et on ne les reçoit pas, on ne croit pas à cela. Hein, mes amis, voulons-nous être fidèles? Savons-nous que le Seigneur Jésus va revenir bientôt et qu'il faut qu'il trouve l'Église de la dernière génération irrépréhensible, irréprochable, sans rides, sans tâches, ni rien de semblable? Avons-nous lu cela? Bien sûr. Pour arriver à cela, le Seigneur aura mis sa main, mais il désire que nous nous offrions à son action sanctifiante et que nous soyons surtout obéissants. Quelle est ma mère, quel est mon frère, quelle est ma sœur, a dit un jour le Seigneur Jésus en montrant son auditoire, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mon frère, c'est celui qui obéit, qui accomplit la parole de mon Père. C'est celui-là qui est le frère ou le disciple du Seigneur Jésus. On continue de construire cette Jéricho. Et voici que ce Iel, va obliger Dieu à aller jusqu'au bout de son châtiment, jusqu'au bout de sa réprobation. Alors, on pose la dernière pierre, la ville est sortie de terre, elle a monté, elle est toute neuve, c'est dans la joie que l'on se prépare à fêter la réussite, quand un jour encore, on voit un coureur venir. Ah, voilà un coureur qui arrive. Ah, on attend son message, et son message est encore pour Yel. Et il vient lui dire, tu sais, ton fils, le plus jeune, le cadet, vient de mourir. Il vient de mourir. Et c'était quelque chose vraiment de terrible, terrible dans une famille. Il vient de mourir. Yel a pleuré, il a gémi, peut-être a-t-il contesté même Dieu. Celui qui désobéit ne peut pas comprendre la justice de Dieu. Alors évidemment, il s'élève contre Dieu. Il ne peut pas comprendre. Chers amis, nous ne pouvons comprendre la justice de Dieu que si nous sommes fidèles. Fidèles déjà dans notre cœur, essentiellement. Fidèles de cœur et fidèles, bien sûr, dans notre vie, dans notre action. Eh bien, la conclusion de ceci, vous la voyez venir, elle est simple. Ne rebâtissons pas Jéricho. Ne rebâtissons pas Jéricho. Ne rebâtissons pas ce que Dieu a maudit et a entendu maintenir dans hors de la vie, dans l'inexistence. Alors, quel Jéricho pourrions-nous reconstruire, nous ? Eh bien, notre vie précédente. Quelques aperçus de notre vie précédente, d'abord, notre vie précédente. Alors, nous pourrions revenir peut-être à ce que nous avons vomi, insensiblement. Donc, notre vie précédente, qui a été exclu, qui est la vaine manière de vivre, dont nous avons été séparés, il y a une séparation lors de notre conversion, attention de ne pas la reconstituer petit à petit par un affaiblissement de la foi, par un affaiblissement de la foi tout simplement, avec de belles raisons. Ne rebâtissons pas l'Église infidèle. Ne rebâtissons pas en nous l'amour du monde, l'amour, l'attrait pour le monde. Ne rebâtissons pas la chair, bien sûr, et tout ce qu'elle comporte. Attention que nous ne rebâtissions pas nous, Jéricho. Il y a des choses que Dieu a séparées de nous, il nous a séparés de ces choses, et il ne veut pas que nous les reconstituions. Dieu les a condamnés à n'être plus avec nous, ni en nous. Il les a condamnés à cela. Notre baptême a d'ailleurs été l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et j'aimerais vous lire dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, les versets 12 et 13. Écoutons ces versets. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne devons rien à la chair, nous lui devons rien. Nous ne sommes pas redevables. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, avec un grand T, l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu et être fils de Dieu, c'est tout un. C'est la même chose. On ne peut pas dire « je suis fils de Dieu » si l'on n'est pas conduit par l'Esprit. Vous voyez, ici. Être conduit par l'Esprit, c'est être fils de Dieu et inversement. Alors, il faut que nous conservions cela. Il faut même que nous progressions dans cette position nouvelle où Dieu nous a placés. Et comment pourrait-on arriver à reconstruire notre Jéricho ? Eh bien, par affaiblissement de la parole de Dieu en nous, je l'ai dit tout à l'heure. Attention à cela, l'affaiblissement de la parole de Dieu en nous. Il est arrivé, chers amis, que des pasteurs, et je pense à mon propre ministère aussi, eh bien, se trouvent devant des chrétiens qui ont besoin de conseils, qui aiment consulter. Alors, il est arrivé que, bien sûr, on dise à ces chrétiens, mais écoutez, voyez, il y a tel et tel passage de l'Écriture qui vous concerne bien dans la situation où vous êtes. Regardez, voilà ce que Dieu vous demande. Voyez, il vous demande ça. Eh bien, chers amis, il m'est arrivé plus d'une fois que la personne en face de moi ne me réponde pas là-dessus, et même semble ne pas écouter. Alors quelquefois, à la fin, je suis devenu un petit peu ferme. Je lui dis, mais enfin, n'entendez-vous pas la parole de Dieu? Je vous cite la parole de Dieu. Elle est tout à fait celle dont vous avez besoin dans la difficulté qui se présente pour vous. Est-ce que vous voulez ou vous ne voulez pas vraiment la recevoir, cette parole? Eh bien, j'ai remarqué ainsi que la parole de Dieu, dans certaines de ses parties, est quelquefois affaiblie dans les cœurs. Attention à cela. Chers amis, c'est quelque chose de grave. Et puis, il peut y avoir l'affaiblissement, bien sûr, de la foi. L'apôtre Paul dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Et enfin, comme autre raison, il y a l'intrusion de pensées pernicieuses. Nous sommes dans un temps, comme le Seigneur Jésus l'a dit, un temps où la tentation s'étend sur le monde entier. Et là, il faut que nous gardions la parole de persévérance en Jésus. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, moi aussi je te garderai au temps où la tentation s'étendra sur le monde entier. Et nous croyons que nous sommes en ce temps-là. La tentation, la séduction est forte et puissante. Alors gardez la parole de persévérance, c'est-à-dire la parole qui consiste à persévérer dans le Christ et dans toute sa parole. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi. Nous avons besoin, vous voyez, que le Seigneur nous garde. Alors, chers amis, telle est la conclusion à laquelle nous arrivons avec le récit que nous avons trouvé dans Josué, dans le premier livre des Rois, et tel est l'avertissement que nous donne la Sainte Écriture. Que nous donnent ces choses, ces événements qui se sont produits dans le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Retenons-les, chers amis. Ne disons pas, moi, il n'y a pas de danger pour moi. Non, non, je ne peux pas, moi, c'est pour moi, toute la parole, oui, j'ai toute la parole. Examinez-vous pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi à toute la parole. Que le Seigneur nous le permettent. C'est pour nous que ces choses sont dites. Cet avertissement n'est pas quelque chose qui nous bouscule, mais quelque chose qui nous veut du bien, comme tout avertissement de Dieu. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, sois loué, sois béni. Oui, nous voulons, Seigneur, que toute ta parole soit pour nous la parole de Dieu. Et qu'elle soit dans notre cœur, qu'elle y ait bonne place, et qu'elle ne puisse jamais s'effacer, qu'elle soit ancrée en nous. Nous voulons être comme Samuel qui recevait la parole de Dieu et qu'il la faisait pénétrer profondément dans son cœur. Ô notre Dieu, qu'il en soit ainsi pour nous tous, afin que nous te soyons fidèles en toutes choses, pour te glorifier. Amen.